Alors Sabine Bonneau, je me tourne vers vous. Vous êtes agricultrice bio dans le Gers. À ce moment, alors vous allez nous donner votre réaction. Comment vous voyez les choses? Comment ça peut se mettre en place à vos yeux? Quelle forme ça doit prendre? Quel contenu aussi? Et une petite question subsidiaire encore. Est-ce que ça doit être des actions précises, des pratiques nominatives et fixées? Ou est-ce que ça doit être un système finalement? On n'a pas abordé cette question-là encore.
Oui, bonjour. Moi je suis agricultrice bio depuis un peu moins de 10 ans.
Non, c'est bon, vous pouvez y aller.
Ça n'est pas un message pour moi. D'accord.
Non, c'était pour derrière, pour la prochaine intervention.
Avant cela, j'ai travaillé dans l'industrie agrochimique et dans l'industrie agroalimentaire. Donc c'est là que j'ai eu un éveil de conscience en tant que simplement citoyenne de voir ce qu'on donnait simplement à manger aux gens. Et je pense que c'est une dimension qui manque un peu dans nos discussions, c'est l'alimentation et la santé, c'est-à-dire à quoi ça sert tout ça. On parle beaucoup de pratiques et de techniques. Donc au-delà même de la question de la santé des écosystèmes, c'est très très important, du bien-être animal, c'est absolument prioritaire, mais je crois qu'il faut aussi qu'on sache pourquoi on est là et pourquoi on fait tout ça. C'est pour nourrir les gens et les nourrir bien. Moi ce changement de trajectoire m'a amené à m'installer en bio, hors cadre familial et en arboriculture, dans le Gers, qui est un département où la bio a beaucoup augmenté ces dernières années. On est aujourd'hui à 20% de producteurs bio sur un département qui est très agricole, donc on est à, je crois, 1600 producteurs sur le département et plus d'un millier de céréaliers. Donc voilà, moi ce que je vois autour de moi, ça me dit des évolutions massives, rapides, c'est possible, même sur des cultures qui sont censées ne pas pouvoir l'être comme les grandes cultures, en zone de coteaux en plus, donc chez nous c'est pas forcément très très simple.
Vous voyez des choses qui bougent là aujourd'hui, c'est ça que vous
dites? Ah, je le vois, oui.
Ça bouge très vite.
Voilà, donc ça peut bouger très vite, pour ça il y a quand même besoin d'avoir des signaux politiques très forts. On a la chance d'être dans un département où il y a une ambition politique qui est clairement affichée de manière pérenne depuis un paquet d'années, ça va faire pratiquement 20 ans. Ce que je peux, moi, je ne peux vous donner, je ne suis pas une experte, je ne suis qu'une agricultrice, et je ne peux vous donner que le regard que j'ai du terrain. Donc, telle qu'elle est aujourd'hui la PAC, on ne peut pas se satisfaire de petits aménagements à la marge. On est vraiment dans un système qui est complètement inefficace et qui est perçu comme extrêmement injuste sur le terrain. Les DPB, donc moi, typiquement, j'ai eu la chance d'avoir la transmission d'une ferme qui était celle d'un éleveur, avec un système herbager, et donc quand ces DPB ont été calculés, il avait malheureusement des prairies dans sa rotation, ce qui fait que mes ex-DPU sont très faibles. En plus, j'étais en arbo, donc les vergers, il n'y a pas d'aide pour les vergers. Voilà, je fais un peu de légumes, là aussi c'est vraiment le désert. Donc j'étais quand même très surprise en arrivant dans le milieu agricole, de constater à quel point les choses sont verrouillées. La conditionnalité n'en est pas une. Personnellement, je n'ai pas besoin d'y souscrire puisque je suis en bio dans ma déclaration PAC. Mais par contre, j'ai fait le calcul sur le petit formulaire qui est à remplir par les agriculteurs normalement. Et avec, j'ai planté un peu de haies, j'ai une mare ancienne que je n'ai pas remblayée et j'ai un ou deux arbres isolés plus un muret. Je suis à 400% de
400%
surface d'intérêt. D'intérêt écologique.
Donc, honnêtement, spécial.
Ah non, c'est absolument ridicule. Là, si on veut vraiment faire quelque chose, il faut revoir complètement ça. Après, je fais partie, bien sûr, de ceux qui ont 3 ans de retard sur le règlement des aides bio, puisque j'avais l'aide au maintien. J'ai également souscrit ma dernière MAE au maintien avec un engagement de l'État qui était écrit me disant qu'on était reconduit sur 5 ans. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai reçu un courrier me disant « Ah ben non, c'est plus 5 ans, c'est 2 parce que ça va s'arrêter au bout de 5 au global de tous vos contrats ». Bon, ok. Donc, on est quand même sur des fermes qui sont des entreprises qui ont besoin de pouvoir faire des prévisionnels. Et le fait que la PAC soit illisible, non pérenne, perçue comme inefficace, c'est extrêmement insécurisant. Alors en plus, quand on me dit, j'ai aussi souscrit à des mesures du FEADER pour le développement de la transformation à la ferme, et là il y a 1 an et demi de retard, j'ai 40 000 euros dans la nature, là c'est pareil, tout ça, ça donne une vision de l'Europe pour les agriculteurs qui est juste très difficile derrière à défendre, même je suis une Européenne convaincue, mais je dois vous le dire, sur le terrain, c'est quand même compliqué. Dans les discussions, quand on nous dit que tout ça, c'est la faute du logiciel. Alors, je ne sais pas qui est le logiciel, mais je pense qu'il faut l'enfermer. Par ailleurs, pour la question aujourd'hui des PSE, j'espère qu'on ne reproduira pas le système qu'on a eu pour le maintien à l'agriculture biologique, puisqu'aujourd'hui, selon les zones, selon les territoires, on les a, on ne les a pas. Donc moi, je me retrouve, comme beaucoup d'autres, comme tous les producteurs de France bio, dans des situations de distorsion de concurrence. C'est impossible. On intègre dans nos prix de vente, évidemment, toutes les aides qu'on perçoit, puisque, la tension, elle est toujours à la baisse sur les prix des produits agricoles. C'est pas forcément un bien, mais c'est un constat. Et donc, on ne peut pas créer organisée de la distorsion comme c'est le cas actuellement. La dernière chose, c'est une usine à gaz, et pour les producteurs, et pour les services instructeurs, et ça honnêtement, il faut que ça cesse. Également, on est dans des effets d'aubaine qui sont assez insupportables à observer sur les MAE. Je vais rentrer dans le comment après, ne vous inquiétez pas. Mais notamment, j'ai eu la chance de participer à un plan d'action territorial sur une zone de captage d'eau potable. Et là, j'ai vu des choses absolument incroyables sur des MAE qui sont censés être ambitieux sur les réductions d'IFT et où simplement en faisant tourner une rotation avec un bout de prairie sur la zone de captage, on arrivait à remplir le cahier des charges, entre guillemets, sans rien changer au système global. Après, ça a été dit, donc ces effets d'aubaine, pour moi, ça c'est vraiment un gros souci qu'il faut absolument gérer dans le comment de la prochaine PAC. Et puis, dernière chose, ça a été dit, mais je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il faudrait quand même que les producteurs aient des prix qui rémunèrent réellement leur travail. Donc, quand on nous dit la bio, c'est un peu plus cher, ben oui, à moins de réduire les gens en esclavage. Moi, je veux bien, si vous me fournissez des esclaves, je vous fais la bio pas cher.
C'est moche. Pas bien quand même, ça te dit ça.
Voilà. Moi, j'oscille en fait sur ces questions-là un peu entre le découragement. Quand je constate un peu tous les problèmes, je suis dans un département qui quand même commence à être très bio. On atteint à peu près la zone où on peut se dire qu'on va avoir des impacts. Néanmoins, je ne peux pas boire l'eau du robinet sans me demander vraiment ce que je suis en train de faire, parce que je le sais que 6 mois après dans les analyses. On a retrouvé dans la qualité de l'air qui a été mesurée par l'ARS dans mon secteur carrément du lindane, au milieu de 17 autres pesticides. Donc c'est des campagnes qui sont menées depuis 2 ans seulement et sur lesquelles, pour l'instant, on n'avait aucune information. Entre ça, les fongicides et les herbicides, c'est quasiment impossible de se balader dans la campagne au printemps. Moi, je ne suis pas partie à la campagne pour ça. C'est vraiment très gonflant. Ensuite, zone vulnérable nitrate, quasiment tout mon département est couvert, réglementaire. Bon, il y a bien eu des dérogations parce que c'est vrai, nous, on a les palombes. Alors, je vous raconte, les palombes, ça empêche de faire des couverts. Mais donc, voilà, même ceux qui font des couverts n'ont aucune incitation ou aucune réglementation pour les détruire avec autre chose que des herbicides. Donc, c'est campagne orange. Pendant ce temps-là, les éleveurs, notamment herbagers, moi, j'ai beaucoup de bovins allaitants dans mon secteur, sont tous en train de fermer les étables et de passer à autre chose. Donc, ça, c'est vraiment... On est dans une PAC qui est, à mon échelle, et ce que je peux voir sur déjà une toute petite quantité de temps, sur une petite commune, on est 125, 15 agriculteurs, donc ça veut dire 15 familles d'agriculteurs. C'est vraiment très rural et très agricole. J'ai vu couper, arracher toutes les vignes, il y en avait 4, simplement dans mon village, et je suis en train de voir fermer les 2 dernières étables cette année. Honnêtement, on ne peut pas dire que la PAC a besoin de petits aménagements. C'est vraiment, voilà, pour moi c'est un peu une catastrophe.
Les PSE, quelle forme doivent-ils prendre répondre à cet enjeu que vous nous décrivez?
Ne vous inquiétez pas, j'y viens. Je pense que sur la question des prix, il faut quand même se dire qu'on est dans un système qui surproduit. Et c'est un peu pour ça aussi que les prix ne rémunèrent pas les producteurs. Donc moi, je serais vraiment partante pour qu'on ait des systèmes où on engage massivement l'agriculture, et surtout pas avec un truc dual, style « oui, tout le monde est bien, les intensifs d'un côté, les bio de l'autre », ça c'est complètement absurde, d'engager vraiment massivement tout le monde vers un système où, en effet, il n'y a plus de surproduction. Alors les acteurs devront se réorganiser, bien sûr, et je ne dis pas que ça va se faire comme ça, mais c'est vers ça qu'il faut aller. Pour moi, donc, évidemment, changer tout ce qui est le système de plafonnement, revoir entièrement les DPB, enfin, là on repart feuille blanche, des PSE qui soient holistiques, avec des contraintes. Et en tous les cas, holistique, ça veut dire ne pas saucissonner les problèmes. La somme des intérêts sectoriels ne fait pas l'intérêt général. Et la somme ou une partie de somme de bonne pratique ou une bonne pratique ne fait pas un bon système. À mon sens, dès qu'il y a des pesticides dans un système, et ça a été illustré de manière extrêmement claire par la Suisse, je suis vraiment très heureuse d'avoir entendu cette présentation ce matin. Dès qu'il y a des pesticides dans un système, on ne peut pas enrayer le reste. Donc pour moi, dire par exemple, on va faire de l'agriculture avec couverture des sols, mais on reste hyper dépendant des herbicides, on en utilise même plus, on est dans l'erreur totale. Ou alors dire, on allonge les rotations, ce qu'on a fait en Occitanie, en disant aux producteurs, vous faites blé tournesol, vous allez faire blé tournesol colza. Tout le monde a eu des sous là-dessus, et ben les IFT, insecticides et herbicides ont augmenté. Donc attention. Pour moi, c'est holistique ou c'est rien. Et pas que environnement et climat. Là, j'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup inquiétée de la part de la DG Agri. Je pense que sur les enseignements, il faut vraiment aller plus vite. Sur le fait que l'environnement et le climat, c'est bien, mais ça ne suffira pas. La demande de la société, ce n'est pas que l'environnement et le climat, même si c'est primordial. Les aides à la surface, attention, vous allez continuer à favoriser uniquement la course à l'agrandissement. On est en plein dedans, ça suffit. Pardon. Il faut vraiment voir que l'Europe, c'est vraiment un levier très important tant que ça reste un outil pour le progrès. Et le progrès, ce n'est pas forcément l'innovation, attention, vraiment pour le progrès, pour les gens. Et donc là, il faut que vous alliez très vite, il faut que vous appreniez vite, vous disiez, il faut qu'on vous dise, on doit tirer les enseignements, n'attendez pas que ça craque. N'attendez pas que ça craque. Aujourd'hui, vous avez sur la table des éléments extrêmement importants, des études qui sont sorties récemment sur le fait que c'est une étude INRA qui est sortie il y a 2-3 semaines, sur le fait que la PAC à favoriser l'obésité et toutes les maladies qui vont avec. Je ne l'invente pas. Vous avez une autre étude également de l'INRA, CNRS INSERM, qui montre que la consommation régulière de produits bio diminue d'au moins 25% certains cancers. Vous avez une population agricole qui a quand même des gros soucis de santé. Pour vivre en milieu rural, je peux vous dire que vraiment, non seulement les agriculteurs, mais leurs familles, on en a marre d'avoir peur tout le temps, quoi. Et je ne parle pas que des bio. Il y a beaucoup de gens qui ont des cancers. Les gens qui se demandent, tiens, si mon gosse il naît sans bras, est-ce que ce sera à cause de ça aussi? Rendez-vous compte que là, vous êtes dans un contexte qui est extrêmement chrysogène et il ne va pas falloir attendre l'enchaînement de scandales pour réagir. L'Europe, c'est beau, donc faites-en quelque chose de vraiment ambitieux.
Merci Sabine.
Sophie Devienne, vous êtes... pour terminer là-dessus, ça veut dire que dans la gouvernance, moi ce que je ne vois pas, ce sont les... Je suis très heureuse de cette journée aujourd'hui. Ce qui manque, c'est justement les citoyens dans ces processus qu'on dit démocratiques. Moi, je siège à l'agence de loi d'Ourgaronne où je représente la bio, un, entre guillemets, Parlement de l'eau où on est 155 à voter. Eh bien, alors, on est entre les associations de protection de l'environnement, les consommateurs et la bio, nous sommes 10. Donc autant dire que la voix de ceux qui typiquement, en l'occurrence, payent le budget de l'agence, c'est-à-dire plus de 90% des financements, 10 voix sur 155. Et c'est la même chose à l'échelon européen.